journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 23 novembre. Comme chaque vendredi, c'est la libre antenne aujourd'hui dans le JDA, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Un petit tour du côté du standard. Nous reviendrons notamment sur la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est Carmel qui nous en parlera depuis Cotonou. Vous êtes plusieurs aussi à vouloir parler de l'armée réquisitionnée pour mater les manifestations en Guinée. Nous en parlerons vers la fin de l'émission. Guy reviendra sur la constitution gabonaise modifiée. Et enfin, nous pourrons aussi évoquer l'ouverture de la campagne en République démocratique du Congo. Pour intervenir, vous exprimer sur ce sujet, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Mais avant cela, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, je vous laisse. Je voulais participer sur la situation des étudiants pour leur inscription qu'on a augmentée. Alors moi, je voulais également tirer les oreilles à tous les Africains dirigeants pour savoir que quand on est camp, on se bloque, on ne peut pas évoluer. Alors, on dit bien que quelque chose de beau est toujours beau. Mais quelque chose de beau, quand on abuse, ça devient mauvais. Pourquoi je le dis? Alors, aujourd'hui, tous les pays africains francophones ont bénéficié de cette main tendue, de leur main tendue de la France pour que les enfants viennent étudier ici, recevoir cette connaissance, et cette connaissance-là leur permettrait de repartir chez eux pour faire des belles choses. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Les enfants qui viennent ici, ils viennent apprendre, ils ont le savoir, ils ont les atouts. Mais ces enfants-là sont bloqués ici, ne peuvent plus repartir chez eux. Pourquoi? Parce que les conditions de leur pays ne sont pas fiables. Merci, ciao.
Bonjour la sœur Hartmann, bonjour. Bon, comme prévu, effectivement, je voudrais laisser deux messages accumulés, c'est-à-dire de quelques mots, du délai du temps accordé, c'est-à-dire les 4 minutes de messages. Bon, le tout premier message, moi je voulais parler du Gabon pour dire que la situation actuelle du Gabon, c'est pas la peine de d'endormir les Gabonais, c'est pas la peine d'enfumer du mensonge aux Gabonais pour dire qu'il y a ceci, il y a cela, et ceci, tout cela. Le problème revient maintenant au peuple lui-même. Le peuple, même jusqu'au dernier village du Gabon, s'il faut aller à Libreville marcher, c'est le peuple qui doit décider maintenant. C'est pas la peine d'organiser des élections où il y aura encore des morts. Monsieur Jinping avait gagné les élections, monsieur Ali Bongo avait truqué, grâce à la complicité de madame Bourango, la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc c'est une situation de sacrifice. Madame Bourango et Bateki, comme la garde présidentielle est composée de 80% des Bateki qui tirent sur les Gabonais. Mais tous les Gabonais ne vont pas mourir. Le temps de sacrifice est arrivé. Bon, je voulais dire un petit mot sur la RDC. La campagne vient de commencer. Mais qu'est-ce que nous regardons dans les images, que ce soit à la télé, tout et tout, tout est pour Kabila. Merci, au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en nous appelant au 01 55 07 58 00. 01 55 07 58 00. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimez tout de suite. On se dirige vers Cotonou, retrouver Carmel. Carmel, bonjour.
Oui, allô, bonjour madame. Ici c'est Carmel Aguilet, compte depuis Porte Nouveau, Binel.
Bienvenue Carmel dans le JDA. Vous nous avez laissé un petit message parce que vous vouliez réagir à cette hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Est-ce que vous comptiez venir étudier en France, Carmel?
Tout à fait, c'est une décision vraiment liberticide. Moi, je trouve que c'est une décision qui semble être une mesure protectionniste en ce sens que cette décision ne permettra plus aux Africains surtout d'aller étudier dans ces universités, voire même une décision xénophobe. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'ouverture des frontières, la mondialisation de la connaissance. Mais où se trouvent tous ces concepts si, effectivement, une telle décision s'avérait applicable en France? Est-ce que les Africains peuvent-ils, les Africains, les étrangers peuvent-ils aller étudier dans ces universités? Une interrogation. Vraiment, c'est une décision très déplorable à l'heure actuelle. Notons que cette décision peut engendrer des crises, pas même des crises diplomatiques. Si une telle décision s'avère applicable là-bas en France, il y a aussi des étudiants français dans nos universités d'Afrique et un peu partout dans le monde. Si les autres pays aussi doivent fermer leurs frontières, ou bien si les autres pays aussi doivent augmenter le prix d'études pour les étudiants français dans ces universités, où est-ce que ça peut générer comme crise? Où est-ce que ça peut générer comme crise, voire même diplomatique, puisque ça peut nous générer des tensions au sein même des étudiants étrangers et autochtones africains. Parce qu'il y aura désormais de crises, des affronts même.
Pensez-vous que les autorités des pays concernés, je pense peut-être à votre pays, le Bénin, vont s'alarmer, vont s'inquiéter de cette hausse des frais d'inscription?
Oui, vraiment, c'est une décision assez déplorable. Parce que nous avons ici au Bénin aussi, il y a des étudiants français qui étudient facilement chez nous au même prix d'études que les étudiants béninois.
Donc vous en appelez à la réciprocité alors?
Oui, alors la réciprocité. Il n'y a plus de réciprocité. Vous allez voir bientôt, dans quelques années aussi, les autres pays aussi, comme le mien, comme le Bénin, peuvent aussi augmenter le prix de formation des étudiants au Bénin. Mais à ce niveau, ça peut générer des crises de conflits. De conflits, voire la diplomatie.
C'est très clair.
Voilà, moi, je demande humblement aux autorités françaises de revoir cette décision. Ça n'arrange nulle part. Ça n'arrange personne. Vous voyez un peu?
C'est très clair. On a bien compris, mon cher Carmel, pour vous, cette décision. Et même, vous avez dit, xénophobe et discriminatoire. Merci, Carmel, de nous avoir laissé un petit message sur Facebook. Bonne journée à Cotonou. C'est au Bénin. Merci beaucoup, Carmel. On va se diriger à Conakry, retrouver Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie et bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices d'Africa numéro 1.
Bonjour Tierno. Alors vous vouliez revenir sur la décision du gouvernement d'impliquer l'armée dans la sécurisation des manifestations en Guinée, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment indigné tout le monde dans ce pays, parce que nous n'avons pas bâti l'Iran de Janet pour ça. Voilà, au jour d'aujourd'hui, l'armée a été impliquée dans le maintien des ordres. Ils sont tous armés des armes de guerre. Ils ont des pick-up non immatriculés dans la commune de Ratouma. C'est quelque chose qui est vraiment trop, trop dangereux, parce que c'est contraire aux lois de la République. C'est à la police et à la gendarmerie de s'occuper des manifestations politiques et sociales pacifiques dans le maintien d'ordre. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est lorsque le gouverneur de la ville de Conakry et le premier ministre et le chef d'état-major, les différents chefs d'état-major général des armées ont tenu une réunion secrète au palais de la Colombe pour déployer l'armée, pour soi-disant maintenir l'ordre. Leur public. Alors que depuis 72 heures, les citoyens de ces communes sont vraiment victimes de violences de tous genres. Pas plus tard qu'hier, l'armée a utilisé des armes de guerre. Il y a eu des blessés. Le chef de file de l'opposition a été gagé dans les quartiers comme Koloma, Bambetou et Koza. Les jeunesses sont vraiment attrapés en plein jour, ou bien à plus tard 21h, 22h, on les prend, on les amène dans les PA qu'ils ont installé là pour les demander de l'argent. C'est du vrai terrorisme, parce qu'ils nous attrapent et puis on nous réclame des rançons à payer allant 2 millions à 1,5 million. Ça, c'est environ à 100 à 130 euros. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très, très dangereux dans un état soi-disant démocratique. Il n'y a pas de justice. Tout le monde se plaint dans ce pays. Tout le monde porte des plaintes. Il n'y a pas de suite. Et puis, la communauté internationale est là. Les activistes de droits de l'homme sont là. Et puis, tous les gens qui prônent la paix dans ce pays sont vraiment maintenant bouche bée parce que ils sont vraiment dépassés par la situation sociopolitique de notre pays. C'est vraiment inquiétant pour que l'opinion nationale et internationale sache que la Guinée, une partie du territoire guinéen est en otage par le régime. L'armée a été déployée dans la commune de Ratouma. Ils sont en train de blesser.
Donc pour vous, finalement, c'est l'effet inverse, si on comprend bien. Tierno, vous nous dites, bon, bah voilà, le déploiement de l'armée, au contraire, hein, ça accentue les violences, puisque les militaires voilà, ne se comportent pas toujours très bien. Merci Tierno. Il y a Tidiane hein, qui s'est inscrit aussi en nous laissant un petit message sur Facebook, qui voulait aussi parler hein, de ce déploiement de ces patrouilles mixtes, hein, armée-police, pour lutter, dit-on, contre la grande criminalité et le grand banditisme, le banditisme en Guinée. Tidiane, bonjour.
Oui, bonjour à vous, madame, et bonjour à Diallo Tierno, ainsi qu'à toutes les auditeurs de la radio africaine.
Salut Tidiane, je suis contente de vous avoir. Vous laissez parfois des messages et les lignes ne passent pas toujours, vous êtes du côté du Cameroun. Alors, pour vous, à quoi sert cette implication de l'armée dans la lutte contre le grand banditisme, le banditisme et la grande criminalité en Guinée? Est-ce que ça peut être efficace ou c'est aussi peut-être un moyen de faire peur aux populations?
Ah, vous savez, pas du tout. Hein. Moi, je pense que c'est une décision, en tout cas, que je qualifie purement et simplement politique, hein, instaurée par Alpha Condé, le président et son clan, dans l'objectif, en tout cas, d'intimider les manifestants à renoncer de leur marche vraiment de manifestation pour se faire entendre. En tout cas, madame, moi, je pense que cette décision menace vraiment dire dans une armée pour un soi-disant l'insécurité dans un pays qui n'est pas en guerre, surtout dans une zone réputée être le fief de l'opposition, là où on a tué plus de 101 jeunes manifestants par balle. En tout cas, c'est une manière de mettre l'huile dans le feu. Car vraiment, au lieu de militariser une zone française, il fallait d'abord que l'État lutte contre l'impunité en rendant justice aux victimes de tout bord. Parce que le monde, tout le monde le sait, vraiment que l'impunité donne l'injustice. L'injustice envoie la frustration et c'est cette frustration, en tout cas, qui envoie la Guinée dans un stade de violence que ce pays est secoué actuellement. Dans tous les cas, madame, moi je pense que l'armée, c'est dans les casernes ou au front. Car l'armée est brutale, tout le monde le sait. Donc le maintien de l'ordre dans les villes, en tout cas, revient à la police et à la justice civile. Mais ça, c'est dans les pays, en tout cas, de démocratie, non dans les pays d'autocrates comme on le voit en Guinée.
On a bien compris, Tidiane. Merci de votre commentaire hein, sur cette actualité guinéenne. On ferme le chapitre de la Guinée. On va parler, Yagi Katan, depuis un bout de temps. On va revenir hein, sur la constitution au Gabon modifiée. Et les relations France-Afrique. Guy, bonjour.
Oui, bonjour, madame Hartmann.
Bonjour, Guy. On vous entend un peu trop loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du téléphone?
Vous m'entendez?
Oui.
Ah, voilà.
Beaucoup mieux, voilà. Parfait. Oui. Alors, cette constitution gabonaise modifiée, on en a parlé en début de semaine.
Mm-hmm.
On en a reparlé sur l'antenne hier, hein, dans l'émission de Grand Débat de Francis Laloupeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus?
Ben, en fait, bon, c'est sur deux points. Déjà, ce que je trouve effarant, c'est que un pays normalement constitué doit prévoir ce genre de situation, que le président qui est un humain puisse avoir un souci corporel ou maladie. Donc, il y a quelque chose, qui doit être prévu, qui est certainement prévu dans tous les pays, je pense, hein, en tout cas normalement constitué, pour pas que ce genre de choses arrive, parce que changer une constitution. Bon, ça, c'est l'apanage de nos pays africains, comme d'habitude. Mais bon, encore une fois, ça démontre l'amateurisme des choses. Mais sur le point sur lequel je voulais vraiment revenir, c'était l'invité que vous avez eu par rapport à ça. Je crois que c'était un avocat, il me semble, parce que vous l'appeliez maître.
Oui, tout à fait. Maître Méré.
Voilà, maître Méré.
Activiste aussi, il faut le reconnaître.
Voilà. Quand vous l'avez eu, il a dit, vous l'avez présenté comme le porte-parole, je pense, par erreur de
Jean Ping, tout à fait, effectivement, voilà, j'ai confondu. Jean Ping,
et il avait rebondi en disant, non, je ne suis pas son porte-parole, je suis un proche, mais je suis plus proche du peuple gabonais. D'accord, on veut bien, il a voulu se démarquer. Mais ce monsieur-là a dit une énormité pour moi qu'on doit souligner et ressortir. Je pense qu'on lui a fait remarquer, mais pourquoi allez-vous enchaîner pour manifester? Et il avait dit, oui, on a une relation, on a une histoire entre la France et l'Afrique, on ne doit pas l'oublier. Mmh. Mais c'est à dormir debout.
Mmh. Vous n'êtes pas d'accord avec cette réflexion qui fait que, parce que, il disait ça, hein, parce que nos constitutions sont largement inspirées de la constitution française, qu'il y a un club, effectivement, des constitutionnalistes, des constitutions d'expression francophone. Il pensait que la France avait un rôle à jouer face à ce qui se passe au Gabon. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Guy, qu'on soit bien
clair. Non, pas du tout. Justement, face à ça, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue.
Pour vous, c'est entretenir la France-Afrique, justement, c'est ce que vous dites.
Voilà, pour moi, quand on se dit ami du peuple gabonais, c'est ramener le peuple gabonais il y a 60 ans en arrière et l'Afrique avec. Parce que le président Macron qui est arrivé, qui était un opportuniste et qui est arrivé par la naïveté de François Fillon, est quelqu'un qui, de par sa jeunesse, pense que tout lui est dû. Vous voyez? Et ça me fait penser à la jeune étudiant burkinabé qui avait dit « Ramenez-nous l'électricité ». Il avait dit « Mais c'est pas moi de faire ce travail-là ». C'est la même chose que je veux dire à monsieur l'avocat. Arrêtez de dire des bêtises. Parce que quand vous parlez de la relation France-Afrique, vous êtes en train de manifester pour pas que la constitution gabonaise soit changée, qu'elle fonctionne comme elle doit être. Mmh. Et en parlant de ça, c'est tout le contraire qu'il fait. Il y a des erreurs que nous pouvons faire, ce qui est normal. Mais il y a des bêtises que nous ne pouvons pas dire, surtout de son niveau, parce que ça n'aide pas l'Afrique. Et les personnes, les autorités françaises qui certainement écoutent Africa numéro 1, se moquent, rient, parce que c'est d'une énormité incroyable. On manifeste contre quelque chose qui a été fait, mais derrière, on vient dire que non, il y a une relation France-Afrique qui est là, on ne peut pas l'oublier. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où on veut aller. Donc vraiment, je vais dire à ce monsieur, l'erreur est humaine, mais il y a des bêtises qu'on ne peut pas se permettre. Parce que il dit qu'il a mis du peuple gabonais, mais il n'aide pas le peuple gabonais en parlant ainsi.
C'est très clair.
Il le ramène encore 20 ans, 60 ans en arrière, et c'est pas possible. Et nous devons faire remarquer aux auditeurs, à toute personne qui intervient, que ce canal que nous avons de nous exprimer, qui est Africa numéro 1, nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que ça a une portée. Et beaucoup de gens nous écoutent. Donc, je voulais relater ça.
Merci, Guy. C'est pas faux ce que vous dites. J'ai quelques auditeurs, des fois, qui m'ont dit, on écoute ton émission, on aime bien des fois, ça nous fait beaucoup rire, et pourtant, effectivement, on n'est pas là pour rigoler pourtant. Merci Guy, bonne journée à vous Guy qui revenait sur cette modification de la constitution au Gabon et peut-être sur l'activisme ici à Paris parfois de certains Gabonais. Merci encore à Guy, à Younous. Alors voilà messieurs, vous m'excuserez, vous patientez depuis une dizaine de minutes mais comme vous n'êtes pas inscrits, on a donné la parole d'abord à ceux qui se sont inscrits. Younous veut nous parler du pétrole au Sénégal. Bonjour Younous.
Oui. Oui, bonjour madame Atman, je remercie tous les auditeurs qui m'écoutent et qui me reconnaîtront. Moi je veux parler du pétrole au Sénégal. Tout le monde veut être ingénieur en pétrole quoi au Sénégal. Ils parlent du contrat, ils savent même pas ce que ça se passe et comment ça se passe. D'abord, les gens qui sont venus au Sénégal pour trouver le pétrole, ils sont venus avec leur matériel.
On a fait une émission, alors je ne sais pas si vous vous basez sur une actualité précise, Younous, il faudrait peut-être nous mettre dans le contexte, mais effectivement l'exploitation pétrolière arrive au Sénégal, il y a un jeune homme, un monsieur qui s'appelle Farine Dao, géologue d'ailleurs, qui a écrit un excellent livre sur le pétrole au Sénégal qu'on avait reçu sur cette antenne africaine Murin dans le livre de la semaine, qui nous avait tout expliqué comment finalement les entreprises qui font de la prospection, qui investissent, doivent pouvoir se récupérer leurs investissements sur la production pétrolière. C'est ce que vous vouliez dire, Younous, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. Et puis, les politiciens, eux, ils maîtrisent rien du tout.
Vous pensez à quelqu'un en particulier, à quelque chose en particulier, Younous?
Je parle à Sonko, lui, il comprend rien.
Ah, Ousmane Sonko, tout à fait, effectivement. Oui. Ah, je ne sais pas s'il comprend rien, mais candidat à l'élection présidentielle.
Oui, il comprend rien du tout sur le pétrole. Lui, c'est vrai, il est expert dans son domaine, c'est, comment ça s'appelle, la finance, tout ça. Il était dans la finance, quoi, tout ça. Il comprend rien du tout. Il comprend bien, dans le pétrole, il comprend rien du tout. Les gens, ils amènent leur matériel pour faire les plateformes pétrolières en pleine mer. Nous, est-ce qu'on a les moyens, les Sénégalais, à faire des plateformes en pleine mer? On n'a pas les moyens. Les gens viennent avec leurs moyens. Et toi, tu veux prendre la plus grande part du pétrole. Et ceux qui ont amené leur matériel et comment ils ont fait les prospections et ils vont partir avec rien du tout quoi. Moi, c'est ça qui me tape dans la tête. Si on avait les moyens pour faire des plateformes en Afrique, Il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas.
Si finalement, les accusations d'Ousmane Sonko ne sont pas très fondées.
Non, lui, il ne comprend rien du tout sur le pétrole. Si il parle du domaine économique...
Il est à Paris ce week-end, d'ailleurs, je pense, Younous.
La raison pour laquelle, moi, je ne le suis même pas, moi. Moi, je ne le suis même pas, parce que je sais que ce qu'il raconte, c'est des conneries. Et il y a des gens qui sont au Sénégal, ils ne sont pas partis à l'école, mais ils sont derrière lui. Ils ne comprennent pas que ce gars-là, il ne comprend rien du tout. Et s'il parle, comment ça s'appelle, politique, il ne connaît rien du tout. Mais le pétrole, il y a des gens qui sont des experts qui sont dessus. Et puis le pétrole, c'est, comment ça s'appelle, dirigé par le monde, quoi. Il y a des lobbies qui sont dans le monde.
Bah, il y a l'organisation des produits. Pardon, Younous. Oui, voilà, l'OPEP, exactement.
Il y a l'OPEP.
L'organisation
des
producteurs et exportateurs de pétrole.
Et les gens au Sénégal, ils croient que c'est eux qui, comment ça s'appelle, fixent le prix du pétrole, du baril du pétrole. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Le pétrole, c'est quelque chose qui est mondial. Le prix est fixé mondialement.
Par le marché, c'est le principe de la loi du marché. Plus il y a de production, moins ça coûte cher. Et effectivement, le pétrole est en train de baisser actuellement, d'ailleurs.
Bah oui, c'est ça. Donc, c'est le conseil que je donne aux Sénégalais, et de se calmer et de laisser les choses se faire tout seul. Moi, je sais que Macky Sall, c'est un géologue. Je ne soutiens personne. Je suis apolitique. Donc, il est géologue, il connaît ce qui se passe.
Il est géologue, Macky Sall?
Oui. Il est géologue. Donc, il connaît beaucoup de choses sur le pétrole. Donc, le monsieur Sonko n'a qu'à se taire. Moi, c'est mon problème, c'est ça.
Si vous voulez réagir au pétrole au Sénégal, 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Avant cela, on va écouter Thierry qui voulait revenir sur la question des universités et de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens en France. Thierry, bonjour. Il est géologue, effectivement.
Bonjour Thierry. À tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Je vais partir d'un principe simple.
Oui.
C'est que si aujourd'hui, en parlant même des problèmes universitaires, mais je veux dire que si aujourd'hui les biocarburants sont autant...
Alors par contre, Thierry, retirer un peu votre bouche là du micro, ça souffle partout, parlez calmement, on va parler doucement comme ça.
Oui. Je disais que si les carburants ont été développés, c'est uniquement à cause du poids du prix du pétrole. Et donc,
Thierry, puisque vous avez fait la transition sur le pétrole, effectivement, Macky Sall est une excellente formation de géologue, ingénieur géologue à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, complétée par une formation à l'IFP, l'Institut français du pétrole. Voilà.
Voilà, donc je voulais prendre cet exemple pour dire que si les universités françaises deviennent chères pour les étudiants, les ressortissants africains, entre autres, ben, c'est l'occasion rêvée de développer nos universités, parce que nous en avons, et avec la possibilité d'avoir des études adaptées à nos besoins. Parce que nous avons des étudiants qui viennent ici. Nos étudiants s'en vont dans tous les domaines. Et quand ils s'en vont en Afrique, ils ne trouvent pas du travail parce que les études ne sont pas adaptées aux réalités africaines. Moi, je vais prendre juste un petit exemple. Cheikh Modibo Diarra, qui a participé au programme le spatial
de la NASA. C'est un monsieur donnait l'exemple hier, d'ailleurs. Un auditeur citait cet exemple.
Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait pour le Mali, si ce n'est possiblement être professeur de physique ou de mathématiques ou d'autre.
C'est déjà pas mal, oui.
Sa formation ne sert pas au Mali. Donc, recentrons-nous, faisons des choses, ne pleurons pas parce que les Français sont en train d'augmenter les taxes ou les frais de scolarité. Nous avons, bon sang, des universités depuis des années. On a le Sénégal, on a le Gabon, on a la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun, dans tous les pays, il y a une université. Pourquoi alors ne pas développer nos universités et faire des études qui servent, je dis bien, qui servent au développement de nos pays? Moi, j'ai entendu dire qu'on veut faire partir le français parce que on a des langues africaines, qu'on a envie d'enlever le franc CFA, qu'on a envie, à partir du moment où on cherche une indépendance économique, une indépendance politique, essayons de partir même dans l'indépendance, même dans les études. Je ne sais pas pourquoi on appeler et pleurer parce que les frais de scolarité sont importants. Je sais que les Africains adorent le diplôme. Même quand le diplôme ne sert à rien, Ils adorent le diplôme. Donc, ils veulent uniquement venir en France. Parce que quand on a appris en France, quand on a appris au Canada, quand on a appris aux États-Unis, on repart en Afrique en disant, moi, je n'ai pas un diplôme africain, j'ai un diplôme européen, international, donc je suis plus capé que vous pour obtenir des postes et avoir un salaire correct. Moi, je dis non. Je dis non. Le problème est français. Même si ça impacte des Africains, eh ben, nous avons les universités.
C'est intéressant, Thierry, ce que vous dites. Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes ici africains hein, qui, après s'être formés en Afrique, trouvaient que c'était pas suffisant d'avoir un diplôme africain et aller se reformer dans d'autres pays, notamment européens ou occidentaux, pour voilà être sûr qu'ils étaient bien formés. Donc peut-être ça pose aussi la question du niveau de formation et de la valeur hein, de certains diplômes. Merci Thierry, il nous reste quelques minutes. Eladj va revenir sur la question du pétrole au Sénégal. Eladj, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Eladj. Vous vouliez rebondir peut-être sur ce que disait Younous qui disait que Ousmane Sonko hein, critiquait à mauvais escient la politique de Macky Sall sur la question pétrolière.
Ouais, si nos frères là, il faut qu'ils respectent quand même les Sénégalais, même s'ils ne connaissent pas Ousmane Sonko, et nous aussi on ne connaît pas Ousmane Sonko, on ne connaît pas le président de la République Macky Sall, tous les deux, parce que Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, c'est clair et net. Même s'il dit qu'il ne fait pas de politique, mais je crois que c'est un politicien.
Je pense qu'il est même candidat, non ? Je crois savoir.
Il a fait 15 ans sur l'administration, ils ne l'ont jamais corrompu, sur quoi que ce soit, Ousmane Sonko. 15 ans, il a fait inspection. Et donc, s'il dit que pour le problème du pétrole...
Il a écrit un livre sur le pétrole et le gaz.
Il a appelé Macky Sall pour qu'on fasse un débat là-dessus. Mm-hmm. Est-ce qu'il a répondu, le président de la République? Il n'a pas répondu.
Si, apparemment, il parle
les contrats qui ont été signés avant de signaler qu'on a du pétrole. C'est ça qu'il parle, Ousmane Sonko. C'est parce qu'il veut savoir ce qui se passe sur le pétrole, machin tout. Nous, on n'a rien fait du tout. Ousmane Sonko, ce qu'il a dit, c'est clair. Il faut que le président de la République nous sorte les contrats qu'il a signés avant d'annoncer qu'on a le pétrole au Sénégal. C'est ça qu'Ousmane Sonko il parle. Et depuis qu'il parle de ça, et tout le monde le jette des cailloux. Et puis ils ont rien éclairci depuis le début qu'on a
effectivement, ce qu'on peut dire, Eladj, aussi, c'est qu'il y a eu des contrats opaques, puisque le frère du président Macky Sall était à la tête d'une des entreprises qui a revendu le puits de pétrole. Voilà, c'est ouais, ça, avec une certaine plus-value d'ailleurs.
Pourquoi lui, le frère du président là, pourquoi il vient pas faire un débat sur avec Sonko, qui éclaircit au moins les Sénégalais, qu'on puisse nous savoir, et celui qui vient de rentrer dans l'émission là, au moins lui aussi, on va l'éclaircir un peu. Parce que je crois que si c'est un politicien, il nage sur les erreurs. Et tout ça, c'est pour notre intérêt, nous tous, pour les Sénégalais. Qu'on puisse, nous, les immigrés qui sont là, qu'on puisse rentrer, parce que nous, c'est trop tard pour le pétrole. Parce que Ousmane Sonko, il a dit, avant qu'on dit paix, le président de la République, il a tout vendu déjà.
Cela dit, Macky Sall a répondu fin octobre, il a dit ceci.
Pourquoi on l'appelle pas? C'est ça le problème. Il a dit avant de dire paix, ils ont déjà vendu le pétrole. Et Ousmane Sonko, il est encore là. Pourquoi le président il appelle pas pour faire comme il a fait Khalifa Sall et puis Barthélémy Diaz et des consorts? Il l'a dit 1050 fois. Si le président il veut qu'on se mette à table et qu'on fait un débat. On les laisse tourner et on les laisse raconter des conneries. C'est pas des conneries. Il n'a qu'à venir faire un débat avec le président de la République, et puis éclaircir le problème de contrat du pétrole, c'est tout. C'est pas difficile. Hein.
C'est clair. Merci, Eladj, 01-55-07-58-00. J'ai essayé de vous dire, Eladj, que Macky Sall avait répondu. Ce qu'il a dit, il faut un débat sérieux, objectif. Lorsque dans un pays aussi démocratique que le Sénégal, où l'expression est libre, on voit dans un ouvrage ou dans les réseaux sociaux que le gouvernement a fait perdre à son pays 100 milliards de dollars dans une opération, alors que nous sommes en phase d'exploration, ce n'est pas sérieux. Voilà la réponse de Macky Sall à Ousmane Sonko. Merci Eladj. Il nous reste une minute, le temps d'écouter peut-être Ousmane. Ousmane, bonjour.
Oui, bonjour, oui. Justement, à propos du pétrole, il y a le président du groupe parlementaire APR, c'est un pétrochimiste aussi, Monsieur Nying, Aymeru Nying, quoi. Bon, je le connais parce qu'on a fait le lycée Blaise Diagne en même temps. Bon, bref, moi, ce que j'avais voulu dire au Gabon, est-ce que la politique gabonaise est une affaire de famille? Il y a Bongo père, Bongo
oui.
fils, Jean-Ping qui a marié la sœur à
Bien sûr, à Bongo, Madame Borantsuo qui a eu deux enfants avec feu Omar Bongo.
Pardon ?
Madame, la présidente de la Cour constitutionnelle a eu deux enfants avec feu Omar Bongo ?
Oui, je crois que...
Vous avez Frédéric Bongo qui est à la tête des services secrets ?
Pardon ?
Vous avez Frédéric Bongo qui est à la tête des services secrets ?
Ouais, et puis on parle ce matin, j'écoutais que Bongo avait une autre fille, Malika, je ne sais pas...
Aussi, cette fille, sa fille d'ailleurs a été élue députée.
Ah bon, mais
oui, oui.
Ping, il
c'est pas la fille
dans le gouvernement de Omar Bongo.
Ping était ministre, oui, sous Omar Bongo, ministre de la Défense, je crois même, ou des Affaires étrangères plutôt.
Vous savez, ça me fait penser à Dynastie. Il y avait une émission américaine.
Dynastie, vous avez dit. C'était une série, oui.
Des dynasties, quoi.
Dallas, un peu. On n'est pas loin de Dallas à Libreville, c'est bien ça.
Ouais.
D'autant qu'il y a du pétrole, comme chez Dallas.
Oui. Mais donc, ce que j'avais voulu savoir, Pascaline, se sent-elle plus proche de son frère Ali ou de son mari Jean-Ping?
Son ex-mari, d'ailleurs, plutôt.
Ah, ils ont divorcé. Vous me faites douter.
Ousmane, excellente question. Je n'ai pas de réponse à vous apporter, Ousmane. Mais si des Gabonais veulent vous répondre, qu'ils nous laissent un message sur le répondeur 01 55 07 58 05, je crois. C'est un peu tendu d'ailleurs, il me semble, entre Ali Bongo et sa sœur Pascaline. Bref, bon, cela ne nous regarde pas. On arrive à la fin de cette émission. Merci, hein, Ousmane, de votre participation. Je m'excuse auprès d'Olivier Gwenza. On a préféré ne pas le prendre, voilà, pour essayer de faire émerger d'autres auditeurs. Vous commencez à connaître le principe. N'hésitez pas à continuer le débat, les débats même, sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du JDA. Restez bien à l'écoute d'Africa numéro 1, surtout, hein, votre radio africaine. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.